Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 4.
Saison 4, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fabio Cumaudo et Tom Croc. Bonjour Fabio et Tom.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte italien et à la tête de l'atelier Rome. Alors, c'est peut-être un peu idiot de vous poser la question, mais pourquoi l'atelier Rome? Parce que vous êtes tous les deux originaires de Rome?
Il y a plusieurs réponses. Au début, on était trois associés, donc on était tous les trois, on avait des origines italiennes. Et tous les trois, on était, moi et Tom, moi je suis d'origine sicilienne et Tom est d'origine sarde. Et l'autre associé, ancien associé, il était du Nord. Donc on a fait un peu, on a pris Rome parce que c'était un peu le centre de l'Italie. Et après, cette période-là, on était à côté de ce quartier-là, à côté de Rome. Et troisième chose, il y avait aussi le club de Rome des années 60, qui est pratiquement précurseur dans la notion de du développement durable. Donc, du coup, on a décidé d'adopter ce nom-là. Voilà. Ouais.
Alors, vous fondez cet atelier en 2013, c'est bien ça?
Exactement.
En partageant l'idée que l'architecture peut apporter des réponses originales et adaptées à nos modes de vie, notamment en les enrichissant tant sur le plan culturel que dans la pratique du quotidien. Car l'architecture doit avant tout, je vous cite, répondre à des besoins et des usages clairement identifiés, c'est l'affaire de tous. Alors avant de rentrer dans cette matière, on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Alors qui commence?
Je vais commencer. Donc moi, je me suis inscrit à l'université de Venise dans les années 90. Et donc, je n'avais pas décidé de faire architecture tout de suite, en fait. Mais
et pourquoi Venise?
Parce qu'en fait, moitié de ma famille est à côté de Venise.
Ah, d'accord.
Et Venise, à l'époque, c'était une des facultés d'architecture plus importantes et reconnues à l'étranger.
Mais vous disiez que vous ne vouliez peut-être pas forcément commencer par là?
Oui, parce qu'au début, je suis monté, en fait, c'est très... je suis monté, on dit toujours monté en Italie quand on vient du sud, je suis allé dans le nord, donc en fait, j'étais un peu indécis sur l'ingénierie ou l'architecture ou l'économie aussi. Donc après, je suis allé à une présentation d'un atelier d'architecture, donc là, c'était un peu coup de foudre. J'ai dit, je veux faire ça. Donc là, j'ai plus changé d'idée. Donc
mais l'ingénierie, l'économie, l'architecture, il y avait quand même une idée de construire.
Oui, surtout que quand on est architecte, on est un peu des généralistes, donc tout est ensemble en fait. Donc je me sentais, en fait j'étais déjà au lycée, j'étais bon en maths, en dessin, parce que nous au lycée en Italie on fait du dessin technique depuis la première année, donc on fait 5 ans de dessin. Et donc, j'avais ces trois options et surtout, ce qui a changé vraiment, qui a mis au clair mes idées, c'était la présentation, en fait. C'était dans un atelier, on était 400 et les profs, il nous a fait un peu rêver, quoi. Donc de là, je me suis inscrit Et après, donc, je n'étais toujours pas très convaincu parce que c'était... En fait, nous, on était nombreux. On était 2000. Donc, ce n'est pas du tout la taille des écoles françaises. Et après, en deuxième année, j'ai fait un cours d'histoire avec Manfred Otafouri.
Ah oui.
Et ça, c'était donc extraordinaire. Donc là, ça m'a changé un peu tout mon parcours d'études, en fait. Parce qu'après, ensuite, j'ai pris beaucoup plus de temps pour faire mes études. En première année, j'avais donné tous les examens, mais pas vraiment avec la convention. C'était juste pour passer les examens. Et là, bon, là, c'était... J'ai fait Manfred Otafouri, donc mes cours d'histoire. Après, j'ai suivi des cours de Gregotti. Donc, à l'époque, il y avait aussi Aldo Rossi. Donc, voilà. Donc, c'est
tous les grands noms
exactement,
italiens.
qui ont fait aussi de Venise un peu le centre des études d'architecture en Italie et aussi en Europe, dans le monde. Quoi. C'est tout des noms plutôt très connus. Donc voilà, et après, l'autre étape fondamentale, c'était aussi l'année d'études en Erasmus. Donc de là, je suis sorti un peu de l'Italie.
Pour aller où ?
Je suis allé en Belgique. Donc en Belgique, c'était encore une nouvelle méthode par rapport à l'Italie. En fait, on fait des études très théoriques, beaucoup de théorie, beaucoup d'histoire, beaucoup d'urbanisme, théorie de l'urbanisme. Et par contre, en Belgique, c'est très pratique. On fait beaucoup de constructions, de modèles, donc et beaucoup de projets. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on faisait à Venise. Après, je suis retourné et après, j'ai terminé mes études à Paris. J'ai fait mon diplôme avec un sujet en banlieue de parisienne. Donc c'était un sujet sur les friches, c'était en fait un échangeur, un projet très urbain. De l'urbain, on descendait de l'échelle jusqu'au centième. Donc, c'était un peu l'enseignement qu'on avait en Italie, c'est-à-dire travailler dans des différentes échelles. Et après, je suis resté ici, donc je commençais à travailler à mon compte.
Vous aviez appris le français déjà ?
Non. Non, pas tout à fait. J'ai pris au fur et à mesure. J'ai jamais fait des cours de français, d'ailleurs. Je pense que ça se comprend aussi. Et non, j'ai appris au fur et à mesure.
Un peu en Belgique, et puis après.
Un peu en Belgique, un peu à l'école, un peu dans la rue, en fait. Voilà.
Bon. Et en fait, le fait de venir à Paris, c'était parce que vous aviez déjà l'idée de vous implanter ici ? Parce qu'il y a plus de travail ici ?
Exactement. Oui, oui. C'est un peu anticiper un peu la sortie de l'école. Parce qu'en Italie, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes et beaucoup moins de travail qu'en France. Et donc, je suis venu à Paris parce que, justement, je savais qu'il y avait une possibilité, après les études, de travailler facilement, en fait. Et après, je suis resté, en fait.
Vous êtes plusieurs venu témoigner ici. Donc,
on a tous un, plus ou moins le même parcours, je pense, par rapport à l'export.
Oui. Alors, Tom, vous n'avez pas un prénom très italien ?
Oui, ni très sarde, mais voilà, mes parents étaient d'origine allemande, qui sont installés dans les années 60 en Sardaigne. Et j'ai toujours, assez rapidement, en vrai, baigné dans la notion d'espace, dans l'esthétique, dans la construction, parce que mon père était architecte à la base et artiste peintre par la suite. Donc, à partir de 5 ans, mon père m'a amené tous les deux jours sur le chantier. Et donc, j'ai participé à la construction de notre maison, qui est devenue notre maison principale à l'époque. Et donc, de là... tout de suite une sensibilité à la construction. Donc je restais toute la journée avec mon père sous le chantier et j'ai même participé activement à certaines tâches à 5 ans parce que c'était un jour sur deux, c'était mon frère et moi-même qui allons sur le chantier.
Il y avait une sorte d'émulation.
Tout à fait. Donc du coup déjà on voyait pousser cette maison et s'imaginer ce qu'elle allait être. Donc les espaces, les chambres, les toits, etc. Donc on voyait, au fur et à mesure que les mois avançaient, et on construisait avec son imaginaire, voilà, le volume, l'espace, les vues. Voilà. Évidemment, le résultat final, c'est une maison d'architecte, hein, celle qu'on a grandie. Ouais. Et donc, c'était peut-être presque un parcours obligé, je dirais, mais en tous les cas, j'ai baigné dans cette idée de la construction, ouais. des espaces, des vues, des perceptions spatiales.
Très jeune.
Très jeune. Donc, après, évidemment, donc, à ça, il se... mon père, ensuite, il s'est orienté plutôt par son activité de sculpteur, d'artiste. Donc de là, il y a aussi un mélange, un aller-retour avec tout ce qui est peinture, couleur et spatialité. D'une manière générale, lorsqu'on est sculpteur, c'est la base de ce travail. Et pour moi, c'était presque une évidence d'aller étudier à Florence, où j'ai fait mes premiers 4 ans d'université et d'architecture à Florence. Dans une ville magnifique, on apprend l'histoire, on commence à regarder toutes les différentes couches historiques dont est constituée cette ville magnifique, bassin de la Renaissance italienne. Et voilà, là j'ai passé mes plus beaux 4 ans d'études en architecture. Et suite à ça, j'avais pris une grosse décision. Justement, ça rejoint un peu mes camarades italiens qui ensuite sont venus chercher le travail d'architecte en France, parce qu'en Italie, on ne construisait pas beaucoup. La concurrence était très forte. Mais j'avais aussi déjà développé un amour pour Paris. Lors du lycée, j'avais une excellente prof de français qui m'avait fait aimer cette ville. Donc à 14 ans, j'avais fait un voyage avec un ami seul ici et je m'étais promis de venir un jour y vivre. Et ça s'est fait après 4 ans d'université, je me suis dit c'est le moment d'y aller.
Vous avez terminé vos études aussi
à Paris, à l'école de Marne-la-Vallée.
D'accord. Donc, vous n'êtes pas connu à l'école ?
Non, pas du tout. Dans une agence architecture, comme ça se fait d'une manière assez récurrente.
Ouais.
Voilà. Et là, le jour du diplôme, on m'a proposé d'être assistant d'Ivilion en quatrième année de projet. Une semaine après, je travaillais aussi dans une autre agence. Et ça fait que le travail est venu tout seul. Je suis resté... j'ai fondé famille et comme ça là.
Mais vous avez travaillé en agence avant de vous mettre à votre compte un certain temps.
Oui, absolument. Je pense que ça, c'est indispensable. Se construire une expérience parce que même si on est très bon, on est très bons élèves à l'école d'architecture ou dans des écoles d'architecture, moi, j'estime que la moitié de notre profession, on l'apprend aussi en agence. Même si on dédie 6 années d'études dans les écoles, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont à apprendre encore en agence. Je pense qu'il faut garder cet aspect-là. Je le conseille à chaque fois lorsqu'on reçoit des stagiaires qui nous demandent de venir travailler chez nous, de s'imprégner, de venir apprendre au quotidien qu'est-ce que c'est le travail d'un architecte. Ce n'est pas que le projet sur plan.
Alors... Avant justement de parler des projets, j'ai une question récurrente dans le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
C'est un métier... Moi, personnellement, je pense d'apprendre tous les jours. Et j'ai toujours envie de faire d'autres choses. Nous, on travaille beaucoup en réhabilitation. On fait beaucoup de réhabilitation de logements. Personnellement, j'ai envie de faire aussi de réhabilitation d'équipement, pourquoi pas du neuf, de faire je suis très curieux, et donc c'est un métier, à mon avis, qui peut progresser.
Vous avez encore plein d'envie.
Oui. Je pense que c'est aussi le moteur de ce métier, parce que ça demande beaucoup d'énergie.
Et de passion.
C'est un métier de passion, on le dit
et
tout
le temps.
Et
de patience aussi.
Et de patience, oui.
Donc voilà, je pense que on était très patients parce qu'on a d'abord travaillé dans des agences d'architecture. Moi, je suis retourné en Italie aussi pour d'autres questions, plus de cœur. J'ai fait 2 ans en Italie, toujours dans une agence. Après, je suis revenu à Paris. Et là, j'ai commencé un peu à travailler en freelance dans des agences et pour moi-même. On s'était croisé avec Tom en 2006 dans une agence Michel Beauvais. On s'était juste croisé, donc on a eu la possibilité de louer le même espace en 2007. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger sur des projets. Et à la fin, on s'est associé en 2013.
Vous vouliez peut-être répondre aussi, Tom ?
Oui, c'est un métier de passion. Donc, à mon avis, c'est vraiment l'élément principal qui nous pousse. C'est un métier passionnant parce que aussi on apprend tous les jours. Chaque projet est différent. On vit dans une période où il y a plein de nouveautés qui viennent un peu de tous côtés, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des règlements, au niveau des lois, au niveau de l'économie, de l'énergie. Donc, on n'est jamais dans une profession figée, mais on a l'impression de devoir recommencer. Chaque projet, c'est un nouveau projet. On recommence. Une certaine savoir-faire est là, mais on a l'impression de recommencer quelque chose à chaque fois. Donc, c'est toujours une nouvelle aventure, jusqu'à la livraison, évidemment. Donc, même le chantier lui-même est une aventure.
Oui. Voilà. D'ailleurs, on ne s'y intéresse pas assez, à l'usage.
Oui, tout à fait. Mmh. Et nous estimons que c'est une obligation pour un architecte de travailler sur le chantier, essayer de transcrire ce qu'on a conçu et essayer de le construire par la suite sur le chantier avec les ouvriers, avec les entreprises, pour avoir un résultat
et avec les locataires
le plus
aussi,
cohérent possible, et avec les usagers, évidemment.
Mais au départ, comme vous vous inscrivez dans une filiation d'architecte, pour vous, c'était logique d'avoir son agence.
J'ai travaillé 10 ans dans des grosses agences parisiennes, plutôt dans le domaine médico-social. Donc, je faisais tout autre que la réhabilitation de logements sociaux, qui est aujourd'hui notre cœur de métier. Mais il y avait toujours l'homme au centre du projet, que ce soit le patient, que ce soit l'infirmier qui travaille à l'hôpital. Donc, pour moi, c'est très important que c'est le futur usager qui va bénéficier de ces espaces, de ces émotions, de ces couleurs, de ces lumières. Et donc, on construit pour quelqu'un.
Alors, justement, on va maintenant parler de vos projets. Peut-être projet fondateur en 2013, projet structurant, emblématique, d'actualité.
On travaille essentiellement en ce moment sur la réhabilitation de logements. Les bâtiments, donc les logements sur lesquels on a travaillé, sont des logements, on a pratiquement couvert du 1900 au 2000, toutes les époques. Donc on a travaillé sur des HBM en briques, on a travaillé sur des immeubles des années 60, des années 80. Et dernièrement, justement, on a gagné un concours de réhabilitation et résidentialisation d'un quartier avec 6 plots et une tour des années 70. Donc là, on était un peu les outsiders. Donc on a proposé un projet assez fort et donc... on est un peu surpris, mais à la fin, on a gagné ce projet-là. Donc,
c'est pas Lutèce Bergerie ?
Exactement. Donc, c'est un projet qui est phare du maire de la mairie de Valenton. C'est un projet en rue. D'ailleurs, on vient de le présenter la semaine passée. On était avec les locataires, le maire et les bailleurs, ces séquences. Donc, l'idée, c'est de réhabiliter les quartiers, de réhabiliter surtout l'image de ces quartiers qui est un des quartiers plus défavorisés de l'Île-de-France, ou peut-être de France. Donc c'est très important et c'est là où on dit qu'on met l'homme au centre de nos attentions parce que par l'architecture, on peut contribuer à changer un peu la vie simplement d'une famille. Je me souviens que habiter dans un quartier, ben ça change beaucoup. C'est un quartier... Nous, on a travaillé surtout sur les couleurs, les teintes, l'espace végétaux. Donc, on a aussi ajouté des loggias pour avoir des séjours un peu qui s'étendaient vers l'extérieur. Donc, c'est tous des éléments qui sont enrichissants pour le...
Qui apportent de la qualité.
Exactement. Et donc, je pense que ça, c'est un des projets les plus importants qu'on a en ce moment. Après, tous les projets sont importants parce qu'en même temps, on vient de gagner une petite surélévation de 10 logements. Et là, par contre, c'est en bide. Et donc, les logements ne sont pas occupés parce que notre particularité, c'est que nos projets, toutes les réhabilitations sont en site occupé. Donc, c'est un élément de... une contrainte en plus à gérer. Et donc, je disais, là, on a gagné un projet de surélévation pour un bailleur parisien, LOJ. Et là, le projet est plutôt, le défi, elle est technique, parce qu'on utilise donc, que des matériaux biosourcés. Et on a beaucoup de contraintes, parce qu'on est dans le site urbain parisien. Il y a aussi les contraintes liées à la nouvelle réglementation thermique. Et évidemment, c'est
un exercice de composition très pointu.
Très pointu et d'une échelle complètement différente.
Et c'est, à la base, c'est un patrimoine qui remonte à quand ?
En fait, c'est un rez-de-chaussée plus un air plus un. Et je crois que c'est de fin 1800, début 1900. Donc, c'est juste un étage. Ancien. Exactement. Et c'est surtout dans une rue très petite où il y a différents immeubles post-haussmanniens, mais aussi de... Bah, en fait, c'est une rue très, très, très hétérogène, en fait.
Et vous allez monter à combien de niveaux ? Vous êtes limité au cabaret parisien, de toute
façon ? 5 niveaux.
Ah, quand même, ouais.
Oui. Et donc, pour dire que l'échelle est très différente, mais bon, on met la même passion que pour un projet beaucoup plus grand. Et je pense qu'à la fin, on va mettre beaucoup plus de temps pour faire cette petite surélévation.
Bah, petite, elle est quand même importante.
Au niveau de la surface, je veux dire, parce qu'on a juste 10 logements. En fait.
Ah, d'accord. Mais vous allez pouvoir vous exprimer en façade ?
Bien sûr, on est en train de faire les plans, mais justement, même ce soir, on a travaillé sur les plans des façades, mais c'est assez compliqué, parce que, c'est aussi la technique, parce qu'on fait tout en bois aussi, la structure est en bois, donc... On voudrait utiliser aussi des murs en paille. Donc, il y a beaucoup de choses
agglomérées.
Donc, c'est un défi. Donc, faire un beau projet avec toutes ces contraintes-là, si on va y réussir, je pense que ça va être...
Il n'y a pas de raison que vous avez été appelé à travailler sur ce projet pour y...
Oui, bien sûr. Mais après, on peut dire que chaque architecte... Les projets, il y en a plus de plus réussis et de moins réussis.
C'est vrai. Alors finalement, vous êtes vraiment dans l'air du temps parce qu'on dit qu'on va être de plus en plus amené à réhabiliter. Vous êtes très ancré dans la pratique contemporaine.
Oui, c'est bien cela. C'est des sujets actuels, futurs. On construit moins, en neuf, je parle. Et pour nous, c'est une évidence. Fabio a fait son université à Venise, moi je l'ai fait à Florence. On ne construit pas. On travaille avec l'histoire, très délicatement, d'une manière très attentive. On modifie, on adapte quelques petits bâtiments. Pour nous, c'est une évidence. Évidemment, il y a aussi... nous, on amène avec nous un peu cette expérience italienne, qui est celle de... du respect à l'histoire du bâtiment ou du quartier.
Avec une expertise très fine.
Voilà, donc on rentre beaucoup aussi dans le détail même des matériaux, qu'est-ce qu'ils évoquent, quelle époque elles racontent, la manualité de l'ouvrage. Et évidemment, il y a toujours l'homme qui va être celui qui va vivre ce bâtiment qui a été modifié par la suite. Donc, on a toujours deux approches bien identifiées chez nous. Ce lien avec l'histoire, c'est pas là que nous commençons notre travail. Et évidemment, après, c'est toujours aussi l'homme ou la personne, l'usager, qui va ensuite profiter de ces espaces. Voilà nos préoccupations principales au quotidien. La technique, elle va de soi, mais...
Mais alors, au départ, en 2013, pour vous associer, vous avez eu un projet, non ?
Oui et non. On a commencé un peu à travailler sur... On a fait quelques concours ensemble, d'abord. Et après, en 2013, on a gagné assez vite une procédure adaptée avec Paris Habitat. Donc, c'est un projet assez important. C'était une réhabilitation lourde, donc on a... refait pratiquement tous les logements, on a ajouté un ascenseur, on a refait complètement l'isolation extérieure et on a refait aussi nos ateliers en fait. Parce que maintenant, là où on loue les ateliers, c'est en fait les ateliers qu'on a conçus Et à l'époque, on ne savait pas qu'on allait louer ces ateliers-là. Et donc, c'était un chantier très long. Bah, c'était l'étude et les chantiers ont pris 5 ans. Donc, oui, effectivement, c'est ce projet-là, le fait de le gagner, nous a permis d'avoir plus confiance en nous et de continuer. Parce que, bon, après les premières années, on était un peu. On faisait aussi des projets privés. On fait du public, essentiellement. Mais à côté de ça, on se permet aussi de faire de petits projets de réhabilitation des intérieurs en privé. Ça nous permet aussi un peu de sortir aussi du standard du social et faire quelque chose un peu plus, comment dire, travailler au niveau des intérieurs pour les
Vous faire. Faites de l'architecture intérieure alors?
Exactement, oui, on travaille, on fait jusqu'à l'échelle du meuble. Tom, il a dessiné même un tapis, donc on essaie avec le privé de d'aller vraiment à l'échelle du détail.
Mais ça, vous ne le montrez pas sur votre site?
Oui,
si,
un petit peu. Oui, oui. Ouais. Il y a un appartement fait à Nancy, un appartement fait dans le centre de Paris, dans le Marais. Et là, on essaie aussi de travailler avec des matériaux biosourcés, si on peut. Donc, c'est un peu notre petit atelier pour après essayer de le porter aussi, enrichir aussi les logements sociaux. Moi, personnellement, c'est un peu des expérimentations qui, après, on peut traduire aussi dans des espaces de logements sociaux. Donc, c'est très intéressant.
D'autres projets ou...
Barwell, peut-être, les HBM, parce qu'on fait beaucoup de...
Oui, j'ai vu avec la brique.
Ouais.
Ouais.
Donc, c'est des projets où on est amené aussi à... En fait, on est souvent... Paris Habitat nous appelle souvent pour des projets de différentes tailles. Et souvent, on travaille aussi avec des équipes de maîtrise sociale. Et c'est des équipes, des paysagistes, des BOT de remploi. Donc, ça commence à devenir vraiment des projets très, très intéressants parce que ça...
multidisciplinaire dans les compétences.
Ouais.
Et donc,
et avec ce fameux réemploi qui s'installe de plus en plus.
Oui, oui, chez certains employeurs, c'est devenu pratiquement une obligation. Leur emploi, le circuit court, la décarbonisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, donc l'utilisation des matériaux locaux. Donc, surtout à Paris, c'est très... Comment dire, chez les bailleurs parisiens, c'est très demandé, en fait. Par rapport aussi aux bailleurs en Île-de-France.
Mais comment on arrive à réutiliser sur des HBM qui ont été dessinés de manière très fine, dans un contexte bien déterminé? Qu'est-ce que vous réussissez à injecter comme matière existante?
Bah, tout dépend déjà du programme. Parce que, en fait... Paris Habitat a la majorité des HBM parisiens, mais les programmes sont très différents. On passe du simple entretien du bâtiment à une réhabilitation lourde. Si on a la possibilité de faire une réhabilitation lourde, donc on va, par exemple, utiliser les meubles ou les portes. Par exemple, les portes palières, ils sont plus conformes aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas coupe-feu. Et on peut essayer de faire des meubles, ce qu'ont déjà fait d'autres collègues. Après, il y a aussi une question de réutilisation des sols, du parquet ou des radiateurs. Et je sais aussi qu'on peut aussi parfois maintenant intervenir. J'ai des collègues qui ont utilisé d'autres matériaux du parc immobilier, toujours de Paris Habitat, pour les réutiliser dans leur réhabilitation, leur projet. Donc, il y a différentes. C'est compliqué, c'est pas facile, c'est pas forcément moins cher, au contraire. Ça demande beaucoup d'énergie aussi d'études. Et ça devient aussi très spécialisé. Aujourd'hui, on a des bureaux d'études et même des architectes qui s'occupent seulement du remploi. Parce qu'il faut connaître, il faut trouver la filière, donc il faut avoir du stock, avoir la place pour stocker. Donc c'est pas si simple que ça.
Ouais. Mais bon, c'est pour le bien de la planète.
Exactement.
Enfin, on a des visions à long terme. C'est bien, ça.
Ça, c'est très bien. C'est, ça remet aussi en question plein d'habitudes qu'on avait un peu prises le long des années, des décennies en arrière. Et je trouve ça toujours excitant de remettre en question nos acquis, sortir du chemin qu'on a déjà maintes fois parcouru. Mmh. Et ça, c'est un nouveau souffle, effectivement, qui arrive et qui est très excitant à parcourir. Mmh.
Est-ce qu'en dehors de votre projet Lutès Bergeret, vous avez d'autres projets d'actualité ?
Oui, oui, c'est... il y en a plusieurs. On a toujours en réhabilitation, on est en train de réhabiliter. On a un chantier à Boulogne sur deux petites tours de logement. Et Tom, il s'occupe aussi d'un projet de réhabilitation de HBM. Il y a la surélévation dont on vient de parler. Et après, il y a un projet de très petite taille, c'est la réhabilitation d'une grange pour un privé. Et après, nous, on reste une structure assez petite, donc en même temps, on fait un peu tout. Donc,
vous êtes combien, l'agence ?
On est 3-4. Donc, en même temps, on fait tout. Les candidatures, c'est tout self-made, en fait. Donc, et ça
c'est
prend
beaucoup
de temps.
Voilà. L'architecte est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin ? Parce que c'est vrai que le métier quand même prend beaucoup déjà d'énergie, vous venez de le dire. Et quel éclairage donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde compliqué dans lequel nous vivons ? Voilà. Comment on arrive à impulser sur ce fond de guerre européenne et période post-Covid, avec en France, c'est joyeux en ce moment. Hein. Vous avez eu un accueil poubellesque tout à l'heure.
Oui, c'est une question complexe. Évidemment, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la passion qui nous porte, la passion pour ce métier. Je pense que c'est l'élément fondamental pour continuer à travailler avec toute cette difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, mais ce ne sont pas des difficultés. Nous, on les prend comme étant les particularités de ce métier.
Oui, ça fait partie du lot. Oui,
absolument. Et donc, ensuite, chaque projet étant différent l'un l'autre, là aussi, c'est chaque fois un recommencement d'une nouvelle aventure et qui se termine à la réception des travaux, lorsque le chantier est achevé. Donc, évidemment, donc, rien n'est escompté dès le départ. Le simple croquis ne sera jamais réalisé aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Voilà. Donc déjà, lorsqu'on se lève le matin et on va vers ce travail, on le fait parce qu'on est passionné. Voilà, ça, c'est vraiment, je pense, l'élément principal. Après, se considérer comme les acteurs qui vont changer le monde autour de nous, je ne pense pas que ça se traduit, au moins dans ma tête, dans ma conviction, ces passages. On essaie de rester, même dans notre façon de travailler au quotidien, on essaie de rester modeste. On n'a pas besoin de s'exposer, de raconter notre architecture personnelle. Comme on dit, ce que je disais tout à l'heure, on part de l'histoire pour essayer de composer et de redonner vie à ce bâtiment qui a déjà une vie. On essaie de l'adapter pour le porter le plus loin possible.
Donc vous êtes en rupture avec la génération qui vous précède, où c'était vraiment l'architecte star qui dominait.
En tous les cas, je pense, nous deux, on a pas cette envie.
Il n'y a pas quand même, si un jour vous gagnez un musée, vous seriez content, quoi.
Oui, non, oui bien sûr.
Mais encore une fois, le musée, c'est un conteneur qui doit être le plus discret, le plus simple, le plus respectueux des œuvres. Ce n'est pas un bâtiment qui doit s'exposer lui-même. Et je pense qu'il y a matière à discussion là-dessus sur tous les musées qui existent dans le monde.
Après, je pense que l'envie, c'est surtout de faire bien notre travail, tout d'abord. Après, je pense que, bien sûr, on a envie aussi d'être, que notre travail soit reconnu. Ça, je pense que c'est normal.
Oui. C'est
normal pour le lieu. Mais c'est vrai que, nous, déjà, au niveau de notre je pense que caractère, on reste modeste parce qu'on est quand même, on n'est pas dans l'extravagance. D'ailleurs, ça se voit dans la communication aussi. On fait très peu de communication.
Mais nous ici, on aime bien justement ceux qui font pas de communication.
On n'est pas très.
On
bon.
Aime bien aller dénicher des nouveaux ADN d'agence.
Et justement, on est en retour avec notre génération d'avant, mais je pense aussi avec la génération d'après, parce que la génération d'avant, justement, il y avait un besoin de reconnaissance, les archi-stars. Donc, et la génération d'après, c'est un peu. Il y a beaucoup de communication, justement, sur des
petits. Ils sont nés avec un téléphone dans la poche.
Ils communiquent beaucoup sur des choses qui sont débiteurs de. C'est de la mode, en fait. Nous, on est plutôt, je pense, constant. On a notre idée d'architecture humble, simple, mais qui est dure, qui est vivable, où on se sent bien. Donc, c'est notre attention principale, c'est celle-là. D'ailleurs, nous.
C'est votre métier.
Exactement. Mmh. Et je pense aussi on donne beaucoup plus d'importance à l'intérieur qu'à l'extérieur. Du coup, on n'est pas de. La façade est très importante.
Oui, je pense que quand même. Vous...
Mais moi, j'ai appris un cours de Seki, de l'urbaniste, Seki Liganon, que c'est très important aussi ce qu'on voit de notre fenêtre.
Oui.
Donc, c'est pas seulement notre bâtiment qui est important depuis l'extérieur. Mais c'est important de. Bah, qu'est-ce qu'on voit de notre chambre? Qu'est-ce qu'on voit dans la salle des bains? Donc c'est aussi important qu'est la vision de l'extérieur.
De l'architecture comme un objet.
Exactement.
C'est pas ça. Vous retournez en Italie?
Fréquemment.
Oui, pas assez fréquemment. Mais...
Vous construisez un peu là-bas? Vous avez eu des projets? Non.
Non, on n'a jamais. Moi, j'ai jamais essayé parce qu'on sait déjà faire concours. Il y a beaucoup de concours qui ne sont pas construits déjà. Donc c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et donc voilà, et on a renoncé depuis longtemps, je pense.
Oui, on ne construit que pour la famille ou pour nous-mêmes éventuellement.
Elle existe toujours, cette maison?
Oui, bien sûr.
De votre enfance?
Oui, tout à fait.
Avec une très belle vue sur la mer, justement.
Bon. Comment imaginez-vous le monde de demain?
Ah. Bah aujourd'hui, c'est faut être très positif pour imaginer les mondes de demain, vu ce que se passe.
Nous essayons plutôt d'imaginer le monde d'aujourd'hui, de répondre.
Vous projetez.
Oui, nous effectivement nous projetons.
Parce que c'est vrai que le temps du projet pour un architecte
oui.
fait que vous avez cette habilité à anticiper un peu sur l'avenir.
On l'essaye tout en gardant les pieds sur terre et en regardant avec optimisme de ce qui arrive tous les jours, mais sans chercher des gros gestes ou des grandes actions ou visions. Voilà. Donc on essaye de vivre au quotidien qui n'est pas simple pour tout le monde déjà.
Après, justement, oui, en étant, je ne sais pas si c'est l'architecture ou le fait d'avoir justement cette passion ancrée en soi-même, mais c'est vrai qu'on est plutôt toujours très optimiste parce qu'on continue quand même à faire les candidatures, à espérer d'avoir des projets différents, des grands projets. Donc l'ambition, elle est toujours là. Donc automatiquement, on est plutôt optimiste, voilà, malgré tout ce que se passe. Donc. Après, on n'est pas, par contre, des médecins. Donc, je pense qu'on n'est pas là pour sauver les mondes.
Oui, mais justement, habiter l'espace, vous le disiez vous-même.
Oui, bien sûr.
Apporter une qualité de vie qui évite d'aller chez le médecin.
Exactement. Oui, mais on est dans la contribution. On n'est pas dans... Je pense qu'il y a des métiers encore plus importants que les nôtres. Le médecin, par exemple, ou les infirmiers. Mais je pense surtout aux architectes qui divinisent leurs œuvres. Donc je pense que, bon, moi c'est une idée personnelle, donc je pense que l'architecte il a un rôle très important avec d'autres métiers.
Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ?
D'être curieux jusqu'à la fin, pendant les études.
Passionné. Passionné. C'est un métier très beau, très difficile aussi.
Oui.
Et il faut être patient, parce que c'est un métier qu'on apprend tous les jours. Et garder effectivement la curiosité toute longue de la carrière, parce que c'est nécessaire.
Mm. Je dirais aussi de profiter au maximum des études, de explorer le maximum de choses, parce qu'en fait, c'est là qu'on peut en profiter, et surtout pendant les études. Après pendant les études, on n'a pas de problème d'économie.
Les projets fondateurs, on les fait pendant les études. Mm-hmm. Tous les projets que j'ai faits pendant mes études, que ce soit en Italie ou en France, c'est des projets qui me portent encore aujourd'hui au quotidien. Le fait d'avoir osé à chaque exercice une idée nouvelle. Et c'est ces projets-là que je considère les projets fondateurs. Et aujourd'hui, j'essaie de les transposer, les apporter, les amener avec moi. Et c'est cela qui nous porte au quotidien.
Donc c'est aussi prendre des risques ?
Absolument.
Mm-hmm. Un mot de la fin ?
On n'a pas préparé cela.
C'est fait exprès.
Oui.
Il y a quelques petites questions qui surprisent.
Oui.
Plein de projets encore ?
Oui, oui, Manu, hein, bien sûr. On aimerait bien vivre jusqu'à 100 ans pour faire des projets jusqu'à 99 ans. Donc,
Vous avez le temps d'avoir des hobbies ou pas du tout ou
Oui, évidemment, comme tout le monde. On essaye de se garder.
Et c'est une autre chose à laquelle on fait attention. C'est notre, justement, c'est ce que je disais, c'est notre, de garder toujours notre temps libre. Oui. Dans notre agence, on ne fait pas de charrette. On ne travaille pas les samedis et dimanches. Ça nous arrive de faire un peu tard, parfois, pendant la semaine. Mais on pense... De toute façon, un projet est toujours... on peut toujours améliorer un projet. Un projet n'a jamais,
oui,
y a jamais
pas
de fin. Donc, on s'est dit, à un certain moment, la vie privée, c'est aussi important que le travail. Et c'est...
Alors, qu'est-ce que vous avez comme petite passion à côté ?
Tom, il fait du...
Rester curieux, donc visiter les expos, voyager, faire du sport, tout ce que... Voilà, aller au cinéma. Donc, c'est surtout garder l'éveil constant, ouvert.
Mmh. Et, toujours voilà. Apprendre du monde extérieur.
Toujours, toujours.
Bah écoutez, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci. Merci.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.